Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama.
Y a des soleils, y a des nanas. Tarla dirada.
L'été.
On va s'enfourrer jusque là. Tarla dirada.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Des chroniques, des blind tests et des séries sur le cinéma.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival avec deux séries qui vont s'achever aujourd'hui. Alors toi, pendant tout l'été, Guillaume, tu nous as parlé de ces réalisateurs qui étaient aussi des compositeurs de leurs films.
Oui, et là je vous parlais d'une légende absolue, hein, vu qu'il s'agit de Charlie Chaplin, mais surtout parce qu'on a littéralement un petit peu oublié à quel point la musique avait une importance dans ses films grâce à lui.
Et puis moi, je vous parlerai dans mon dernier numéro de la série True Crimes à Hollywood du film Zodiac de David Fincher. Quant à toi, Sophia, tu as vu un film qui était en compétition à Cannes.
Oui, le film d'Arthur Harari, L'Inconnu.
Mais nous commençons donc avec Zodiac de David Fincher, film de 2007.
Hollywood and True Crime Stories.
Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive ?
Les faits divers qui ont nourri le cinéma.
Il est arrivé quelque chose de grave.
Une série inspirée de l'ouvrage d'Esther Hervy, publié aux éditions du Rocher.
Merci, c'est très gentil. Je n'attendais pas tant d'égards.
Nous sommes le 1er août. Il veut son code dans l'édition de l'après-midi.
Si l'examineur n'a pas les couilles de le sortir, on a un scoop sur toute la baie.
Al, ce type parle de tirer sur une douzaine de personnes.
Et si on ne le sort pas, il le fera peut-être.
Si on le publie, on risque d'établir un précédent très dangereux.
Oh, je t'en prie, ça vaut la peine d'être publié.
Mais offrir une tribune à un salaud détraqué, quel message ça envoie aux
une
gens ?
Une minute. Cette histoire de Valero, c'est vrai, c'est certain?
Paul.
Quoi?
Je couvre les crimes de Valero. Je couvre les crimes de Valero.
10 minutes.
Photographions le code et appelons la police de San Francisco. Si c'est vrai, au moins on aura le matériel.
Très bien.
Grace Smith, vous n'avez pas votre dessin à terminer?
Oui.
À la fin des années 60, la région de San Francisco tremble. Un tueur insaisissable frappe au hasard la nuit sur les routes isolées ou dans les parcs de la baie. Mais ce criminel a une particularité, il veut la célébrité. Il harcèle la police et nargue les médias en envoyant des lettres cryptées aux grands journaux californiens, menaçant de frapper à nouveau si elles ne sont pas publiées en première page. Son nom d'emprunt, le tueur du Zodiac. En 2007, David Fincher livre avec Zodiac et bien plus qu'un simple polar, une fresque clinique et monumentale sur l'obsession. Dans son livre, Esther Hervy analyse comment le réalisateur a traqué la vérité historique avec la même rigueur quasi maladive que ses personnages.
Confirmé. Police de Valero. Ils confirment les meurtres.
Allez, au téléphone avec l'examineur. Ils ont la même lettre avec un code différent.
Même chose au Times Herald. Pour Noël. Deux adolescents, parking isolé, morts tous les deux. David Faraday et Betty Jensen. 4 juillet, Darlene Ferrin et Michael Mac. Je crois que c'est Mehou. Bref, elle est morte, pas lui.
Et pour les armes de crime ?
Balistique. Tout ce qu'il indique dans les lettres correspond. Je pense que le Times Herald va publier.
L'examineur aussi, mais sûrement pas à la une. Je dis qu'on devrait publier à la une. S'il tue 12 personnes, ça sera pas notre faute.
Lorsque Zodiac sort sur les écrans, il prend le contre-pied total du thriller hollywoodien classique. Pas de course-poursuite spectaculaire, pas de confrontation finale explosive. Fincher filme le temps qui passe, la paperasse qui s'accumule, les fausses pistes qui détruisent des vies et les carrières qui s'effondrent. Le film suit trois hommes dont le destin bascule à la réception de ces lettres. Il y a d'abord l'inspecteur Dave Toschi, le journaliste star Paul Avery et surtout Robert Graysmith, un jeune dessinateur de presse timide incarné par Jack Gyllenhaal. C'est par ses yeux que nous plongeons dans cette enquête tentaculaire. Zodiac captive par son atmosphère poisseuse et son réalisme historique absolu, devenant immédiatement une référence incontournable du cinéma d'investigation.
Vous aviez raison, en fait. Il n'a pas donné son nom.
Qui l'a déchiffré ?
Un professeur d'histoire et sa femme, à Salinas.
J'aime tuer des gens parce que c'est tellement marrant. C'est plus marrant que tuer des bêtes sauvages dans la forêt parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous à tuer, c'est une chose qui me procure l'expérience la plus excitante. C'est même encore mieux que s'envoyer en l'air avec une fille. Le meilleur dans tout ça, c'est que quand je mourrai, je me réincarnerai au paradis et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donne pas mon nom parce que vous essaierez de ralentir ou d'arrêter ma collecte d'esclaves pour ma vie future.
Il s'avère que notre ami est un poil starbé.
Il paraît qu'il a envoyé une clé du code à Valero
pour aider.
C'est quoi là en bas?
Des restes? Ou peut-être une anagramme?
Pour décortiquer ce dossier, l'auteur nous plonge dans la réalité des faits froids. Officiellement, le Zodiac est lié à 5 meurtres et 2 tentatives de meurtre commis entre 1968 et 69, bien qu'il ait revendiqué jusqu'à 37 victimes dans ses lettres. Le fait divers se transforme très vite en un immense casse-tête cryptographique. Le 1er août 69, 3 rédactions, dont le San Francisco Chronicle, reçoivent une lettre revendiquant les premiers crimes accompagnés d'un tiers d'un message codé de 408 caractères. Le tueur affirme que son identité s'y cache. Alors, si ce premier cryptogramme est rapidement déchiffré par un couple d'enseignants ordinaires, c'est ce qu'on voit dans le film, le message s'avère être un manifeste délirant sur la chasse à l'homme et ne révèle aucun nom. La police de plusieurs comtés piétine, incapable de coordonner ses efforts à une époque où le partage d'informations entre juridictions est un archaïsme administratif. Et au milieu de ce chaos médiatique, l'enquête officielle s'essouffle. Et c'est là que le vrai Robert Graysmith entame son travail de bénédictin. Pendant des années, il va collecter, alors illégalement, des rapports de police, interroger des témoins oubliés, et puis décoder les lettres chez lui jusqu'à publier en 1986 le livre de référence qui servira de base au film de Fincher.
Bon, en supposant que les gants soient les siens, il tire sur le taxi et ensuite il les enlève.
Donc c'est pas son empreinte?
Peut-être, peut-être pas, c'est pas l'important. L'important, c'est la première attaque.
David Faraday et Betty Jensen?
Ils meurent tous les deux. À partir de là, il n'arrive plus à tuer que les filles.
Pas faute d'essayer.
Pas faute d'essayer.
Majot survit, Ferrin meurt. Hartnell survit, Shepard meurt. On a l'impression qu'il est tellement obsédé par les femmes qu'il oublie d'achever les hommes.
Et ce sont tous des couples, tous à des endroits isolés.
Paul Stein, non.
Exactement.
Le taxi célibataire de Washington et Cherry ne collent pas.
Ils ne collent pas. Alors, pourquoi Zodiac le tue?
Il a interrompu la série.
Dans son ouvrage, Esther Hervy souligne la fidélité historique du film. David Fincher ne s'est pas contenté d'adapter le livre de Graysmith. Avec son scénariste James Vanderbilt, il a mené sa propre contre-enquête pendant 18 mois, réinterrogeant chaque protagoniste encore en vie. À l'écran, cette exigence est partout. Les scènes de meurtre sont reconstituées à l'emplacement exact et à la minute près des drames originaux en s'appuyant sur les rapports de légistes. Fincher va jusqu'à reconstituer numériquement les décors de San Francisco de l'époque et exige que les acteurs portent des vêtements identiques à ceux des vrais protagonistes sur les photos d'archives. La nuance majeure analysée par le livre réside dans le traitement du principal suspect, Arthur Lee Allen. Si le film en fait le coupable idéal, presque évident, Esther Hervy rappelle la réalité scientifique, les empreintes digitales, l'écriture et les tests ADN ont tous innocenté Allen de son vivant. Le film, tout comme l'histoire, est donc condamné à rester ouvert sans véritable coupable derrière les barreaux, faisant de l'absence de conclusion la plus grande source d'effroi du spectateur. Alors, plus de 50 ans après les faits, le mystère du Zodiac continue de fasciner et d'alimenter les théories les plus folles. Le chef-d'œuvre de David Fincher reste la plus belle radiographie de cette folie collective, un film indispensable qui démontre que parfois, eh bien, le véritable ennemi n'est pas le monstre qui se cache dans l'ombre, mais notre propre incapacité à accepter qu'une énigme puisse rester à jamais non résolue.
Oui, Zodiac de David Fincher, c'est un petit peu le JFK d'Oliver Stone. Ce sont deux films qui sont tellement documentés, qui fait unique dans l'histoire de la guerre du cinéma et juridique, ont littéralement relancé les enquêtes, tellement la précision du travail du réalisateur, ici scénariste, a poussé les potards jusqu'à 11. C'est assez hallucinant. On sait que David Fincher, c'est un réalisateur extrêmement méticuleux, c'est un maniaque du détail, mais alors là, il a littéralement infusé la réalité.
Mais on n'a toujours pas retrouvé donc ce fameux Zodiac.
Non, mais si on veut voir une autre version de l'histoire, il y a le superbe et un peu oublié Summer of Sam de Spike Lee aussi, qui jongle de manière assez riche avec cette ambiance poisseuse de crime américain entre la fin des années 60 et 70.
Allez, nous parlons maintenant de notre deuxième série. Elle est consacrée aux réalisateurs qui sont aussi des compositeurs. Et là, il y en a un grand. C'est Charlie Chaplin et c'est toi qui nous en parles, Guillaume.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Alors, tous les réalisateurs dont on a parlé dans cette série écrivaient eux-mêmes la musique de leurs films, à l'exception de David Lynch. Mais Chaplin occupe une place véritablement à part. D'abord parce que c'est le premier hein, à l'avoir fait avec une telle constance, mais surtout parce qu'il ne savait pas écrire la musique. Il ne lisait ni les partitions, ne maîtrisait pas l'orchestration comme un compositeur classique, et pourtant, ben, il se retrouve à être l'auteur de certaines des mélodies les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Alors quel est ce secret ? Ben, c'est tout simplement une oreille exceptionnelle. Hein, Chaplin chantonnait ses thèmes, les faisait transcrire hein, par des musiciens professionnels comme David Raskin, Raymond Brash ou Eric James, puis passait des heures à les corriger jusqu'à obtenir exactement ce qu'il entendait intérieurement. En réalité, il composait déjà bien avant de s'asseoir au piano, il composait avec les gestes de Charlot. Chez lui, hein, la musique n'accompagne pas le mouvement, elle en est le prolongement naturel. Alors que le cinéma parlant s'est déjà imposé partout, hein, Chaplin choisit, avec Les Lumières de la Ville en 1931, de se rebeller et de rester fidèle au muet. Mais ce silence apparent est trompeur, car jamais il n'avait autant accordé d'importance à la musique. Le thème principal accompagne la rencontre entre Charlot et la jeune fleuriste aveugle avec une délicatesse extraordinaire. Les violons hein, remplacent les dialogues et chaque inflexion mélodique exprime ce que les personnages sont incapables de se dire. Aucune démonstration virtuose, aucune orchestration spectaculaire, Chaplin cherche avant tout la mélodie juste, celle qui restera dans la mémoire du spectateur longtemps après la projection. Alors comme ces gags, hein, ces thèmes semblent d'une évidence absolue hein, alors qu'ils sont le fruit d'un travail obsessionnel où chaque note est pesée, comme on l'a dit, avec la même précision que chacun de ses gestes devant la caméra. Deuxième extrait. Quelques années plus tard, en 1936, Les Temps modernes marquent l'aboutissement de cette recherche. Dans ce film consacré au monde industriel et à la mécanisation des hommes, hein, Chaplin signe l'une de ses plus célèbres compositions, Smile. Les paroles qui accompagneront la chanson tirée du morceau seront écrites près de 20 ans plus tard et feront le tour du monde hein, grâce à Nat King Cole, avant d'être reprises par des artistes comme Michael Jackson, Elvis Costello ou encore Diana Ross. Et c'est sans doute l'une des rares musiques de film à être devenue un standard totalement international. international, hein, tout en possédant déjà toute sa force dans le film lui-même. Derrière sa douceur apparente se cache une immense mélancolie, car comme Charlot lui-même, hein, elle avance avec le sourire, tout en laissant deviner une profonde tristesse. En 1952, avec Les Feux de la Rampe, hein, Chaplin regarde désormais sa propre carrière avec le recul de l'homme mûr. Il raconte, hein, l'histoire d'un vieux clown qui voit son époque disparaître, et il est impossible de ne pas y voir un autoportrait, surtout venant de la part d'un homme ayant déjà survécu au bouleversement total que fut la disparition du muet pour le parlant. La musique gagne alors une ampleur nouvelle. Le célèbre Terry's Theme, hein, devient quelques années plus tard la chanson Eternally, reprise dans le monde entier elle aussi. Mais avant d'être un succès populaire, cette mélodie raconte surtout le temps qui passe. Les grands élans comiques de Charlot, hein, laissent place à une écriture plus ample, plus nostalgique, où chaque phrase musicale nous invite à regarder, timidement ou non, en arrière. À mesure que Chaplin vieillit, sa musique cesse d'accompagner uniquement le mouvement de Charlot, elle accompagne désormais ses souvenirs et imprime autant la pellicule que les plans qu'il compose dans cette idée d'éternité que permet l'art. Dernier film de Chaplin, hein, sorti en 1967, La Comtesse de Hong Kong n'a pas rencontré le succès de ses précédents chefs-d'œuvre. Et pourtant, il contient une nouvelle mélodie qui fera elle aussi le tour du monde, This Is My Song, hein, interprétée notamment par Petula Clark. On peut dire, hein, qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette fin de carrière, car alors que le public regardait parfois ses derniers films avec distance, hein, ses mélodies, elles continuaient de vivre indépendamment des images. Comme si Chaplin avait fini par devenir compositeur autant que réalisateur. Ces films ont fait rire des générations entières, mais leur musique continue elle aussi de traverser le temps, portée par des interprètes qui ignorent parfois même son origine cinématographique. Chaplin, hein, c'est sans doute le plus paradoxal des réalisateurs-compositeurs que nous avons pu aborder. Il ne savait pas écrire la musique sur une portée, mais il savait entendre et sélectionner la note juste. Chez lui, un geste appelé une mélodie, une démarche devenait un rythme, et un mouvement de caméra trouvait naturellement son contrepoint orchestral. Si Clint Eastwood composait le silence, si Amenabar, hein, composait le doute, et si McFiggis improvisait son cinéma comme un jazzman, Chaplin, lui, composait le mouvement, lui-même. C'est peut-être pour cette raison que la mise en scène de ces films est encore aujourd'hui aussi dynamique et moderne, c'est qu'elle a toujours été au fond une véritable partition de cinéma.
Eh bien, merci Guillaume. J'avoue que moi, j'ai eu l'occasion de voir un concert avec les compositions de Charlie Chaplin, donc interprétées par un orchestre symphonique, et c'était absolument bluffant, effectivement. Et comme tu n'en as pas parlé, c'est normal puisqu'il n'a pas composé cette musique, mais c'est l'une des plus connues. On va parler de Titine, qui est dans les temps modernes. Voilà, on l'écoute. Alors, c'est pas une chanson de lui, mais qui est adaptée d'une comptine de 1917.
Tu sei d'ore, je ne te so che fare, je ne te si t'avore, c'è la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacaletto, c'è la tu la ti la tua. Signora Pilassina, volevo la teximita. La giunta sulla cita. Tula, 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 wa.
Nous passons maintenant à l'actualité de cette émission estivale de Cinérama. Nous parlons d'un film qui était en compétition à Cannes. Et si du jour au lendemain, vous vous réveillez dans un corps d'une parfaite inconnue, Arthur Hariri transforme ce vertigineux point de départ en un fascinant thriller fantastique sur l'identité. Nous parlons de l'inconnu.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Alors, Arthur Hariri, on le connaissait déjà comme scénariste de l'ombre, enfin de l'ombre, scénariste de la lumière plutôt, puisqu'il a coécrit avec sa compagne Justine Triet le scénario d'Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023 et Oscar du meilleur scénario original. Mais en tant que réalisateur, son parcours est tout aussi solide. Diamant Noir en 2016, qui vaut à Nils Schneider, déjà lui, le César du meilleur espoir masculin, puis Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, ovationné à l'ouverture d'un certain regard en 2021. Cette année, il passe un cap, hein, c'était sa première sélection en compétition officielle. Et il y a débarqué avec un objet vraiment singulier, l'inconnu, adapté d'une bande dessinée qu'il a coécrite avec son frère cadet Lucas, Le cas David Zimmerman, paru chez Sarbacane fin 2024. Une histoire de body swap, ou transvasement de l'âme dans un autre corps. Un genre qu'on associe plutôt à la comédie, référentielle façon Freaky Friday ou 13 Going on 30. Hariri, lui, tire ce genre vers le thriller métaphysique, supplément vertige identitaire, sans sombrer dans l'horrifique pur. Et pour porter ça, il a réuni Léa Seydoux, habituée de la compétition cannoise depuis la Palme d'Or avec La vie d'Adèle, et Nils Schneider. Et si le film n'a récolté aucun prix à Cannes cette année, il a fait partie quand même des objets les plus discutés et clivants de la sélection.
Peut-être que vous vous souvenez pas.
J'ai vécu la même chose.
À l'aube de ses 40 ans, David Zimmerman vit reclus. Il ne sort presque jamais de chez lui et garde son travail, pourtant prolifique, de photographe, secret. Un soir, des amis réussissent à l'entraîner à une fête carnavalesque. Il y croise le regard d'Eva, une inconnue qui avait déjà capté son attention en fait, lors d'un shooting de mariage. Il l'avait alors photographiée en douce et son image l'a obsédée depuis. Cette fois, il ne la laisse pas s'échapper, les deux inconnus couchent ensemble et pendant le coït, quelque chose d'intense et d'impensable se produit, David se réveille dans le corps d'Eva. Commence alors une étrange enquête, moins tournée vers les raisons de cette métamorphose que vers les conséquences de celle-ci. D'autres personnes semblent avoir vécu quelque chose de similaire. Alors, comment continue-t-il à exister lorsque visage, voix et corps ne sont plus les leurs? Et pourquoi David a soudain cette envie viscérale de retrouver son propre corps, celui-là même dans lequel il ne faisait pas si bon vivre? Le film déroule alors, et déroute, sur près de 2h20. Il déroule la manière dont ce photographe peine à habiter cette enveloppe qui n'est pas la sienne, dans une enquête aussi intime que troublante.
Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, il est arrivé quelque chose? C'est moi. Vous êtes qui?
Ce qui frappe d'entrée, c'est un choix de mise en scène qui dit déjà tout du film à venir. L'inconnu au féminin s'ouvre sur un long plan subjectif, une caméra embarquée, dans une voiture, sous la pluie, qui porte le regard d'un personnage, d'un inconnu, qu'on ne peut pas encore identifier. Ce n'est qu'au plan suivant, une fois sorti du véhicule, qu'on comprend qu'il s'agissait de David, un photographe. Le détail n'est pas anodin. D'emblée, Harari nous fait occuper la place de celui qui regarde sans être vu, avant de nous montrer que ce regardeur est lui-même quelqu'un dont le métier est d'user de son regard pour capter des images. Tout le film va ensuite jouer sur ce trouble. Qui voit, qui est vu et à qui appartient l'image de soi? Ce dispositif du plan subjectif revient à plusieurs reprises dans le film et notamment dans une scène de reconnaissance de soi, très male gaze et à propos, face à un petit miroir, la caméra épouse littéralement le regard de son personnage recomposé, David, donc dans le corps d'Eva, corps fantasmé qu'il faut habiter alors vraiment. Et cette caméra ne se contente pas d'épouser un regard, elle semble parfois chercher le sien, flottante, presque désincarnée comme une entité en quête d'un corps où s'ancrer. Certains plans vont jusqu'à zoomer au tréfonds de l'iris d'un œil pour entrer à l'intérieur des visages et permettre ainsi un glissement de point de vue de l'un à l'autre des personnages et offrir un basculement du récit. C'est malin, la forme embrasse littéralement le fond de l'histoire. Le vrai tour de force reste quand même le travail des corps. Lorsque la silhouette d'homme de Nils Schneider est habitée par le personnage de Malia, toute sa gestuelle et son jeu corporel adoptent les caractéristiques de la jeune femme, sans jamais verser dans l'imitation grotesque. Léa Seydoux, en David, incarne quant à elle, dans un corps de femme, la fatigue et la solitude masculine de David, avec une justesse déroutante. On peut penser à bien d'autres films, Being John Malkovich, pour Le Vertige de l'identité empruntée, à Mulholland Drive ou encore à l'Orlando de Sally Potter avec Tilda Swinton. Sauf qu'ici, la métamorphose n'est pas traversée par le temps, mais partagée à plusieurs dans l'instant.
Tu m'en connais, hein?
Il faut le dire franchement, tout cela donne un film très bizarre. Ni tout à fait thriller métaphysique, ni tout à fait drame naturaliste, l'inconnu refuse le confort d'un genre stable et place cette étrangeté au cœur même du projet. Harari ne cherche pas à résoudre à tout prix le mystère de l'inconnu et les questions qu'il soulève, loin de toute vraisemblance scientifique et de toute réponse finalement, laissent quand même assurément une empreinte.
Ce film, L'Inconnu qui était à Cannes, et je pense que c'est le dernier film cannois de cet été, est en salle depuis le 26 août.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
Ainsi s'achève cette dernière émission estivale de Cinérama. On a été ravis de vous proposer pendant tout cet été nos deux séries. L'une qui était un peu terrifiante, puisqu'elle parlait des faits divers adaptés par les films hollywoodiens. Et puis
après,
toi,
quelques frissons, ça va pas être du bien. Ça fait du bien, cette canicule.
Oui. Et puis toi, Guillaume, tu nous as parlé donc de ces réalisateurs qui ont été aussi compositeurs de leurs films. Voilà, on en a fini donc avec ces séries. Et on va retrouver l'actualité du cinéma. On vous parlera des films qui seront dans les salles à la rentrée, et ce sera la semaine prochaine.